Ok, donc on continue de parler des versets difficiles, parfois mal compris. Et donc, le sujet aujourd'hui, je vais aborder la question de la vérité, d'obéissance, croissance et la sanctification. Donc, je vais commencer simplement en parlant de la vérité qui est une fondamentale du christianisme. Jésus est la vérité. Si on n'a pas vérité, on n'a rien. Okay? Donc, on doit toujours, quand on vient à la parole de Dieu et en principe dans nos vies de tous les jours, on doit toujours garder à l'esprit quatre principes concernant la vérité. Première chose, c'est que Dieu est vrai. Dieu est toujours vrai. Jean 3, 23 dit, « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Okay? » Dieu ne dit pas le mensonge. Donc, quand on croit à ce que Dieu a dit, on certifie que Dieu est vrai. La seconde chose, c'est que la parole de Dieu est vraie. Donc, je vais lire, il ne faut pas chercher parce que c'est trop rapide. Jean 17, 17, à la fin de la phrase, « Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. Et dans Psaume 12, 7, nous lisons, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et cette foi épurée. » Donc, ce n'est pas que Dieu a dit n'importe quoi, mais chaque mot était pesé, choisi, est mis là exprès. La vérité est très pure. Parce qu'on a besoin de cet enseignement pour pouvoir vivre correctement. Troisième point, c'est que Dieu ne ment pas. Vous mentez. Je suis certain que vous mentez, comme je mens parfois. On veut dire quelque chose, mais on dit, non, j'ai tout petit peu faussé. Hein? Bah, c'est quand même un mensonge. Et c'est dans l'être humain, c'est comme ça. C'est pas bien, mais c'est comment. Mais Dieu, il ne fait pas ça. Dieu n'a pas un peu dit autre que. Il voulait bien dire. Il a dit toujours la vérité. En Nombre 23, verset 9, nous lisons, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Okay? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et dans Tite, chapitre 1, verset 2, ça parle des promesses du Sauveur, du Dieu notre Sauveur. Il dit, le Dieu qui ne ment point, pas même une seule fois. Dieu n'a jamais menti, il ne peut pas, il est Dieu. Il est toujours vrai. Et dans Jacques chapitre 1, verset 17, on parle de Dieu comme le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est toujours comme Dieu était et Dieu sera toujours pareil. C'est lui le point de référence. Il est la vérité et ça ne change pas, ça ne changera jamais. Et donc, il y a un point qui suit, c'est que Dieu ne se contredit jamais. Et donc, sa parole ne se contredit jamais. Alors, parfois, on ne comprend pas et on pense que ça se contredit. Mais ça, ce n'est pas la faute de Dieu, ça, c'est la faute de notre tête. OK? Donc, il est vrai que parfois, les idées dans la Bible s'opposent. Une contradiction n'est pas la même chose qu'une opposition. Par exemple, le jour s'oppose à la nuit. Pourtant, les deux sont vrais, les deux existent. OK? Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 2, la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ça, c'est en opposition à d'autres versets, comme dans Jean 3, 36 et Apocalypse chapitre 20, verset 14, qui dit que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ seront jetés dans les lacs de feu. Donc, on a une opposition là. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que les gens soient sauvés ou que les gens soient perdus? Mais les deux sont vrais. Tous qui croient en Jésus n'iront pas dans le lac de feu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous aillent au paradis. Donc, on peut avoir des idées qui sont en opposition, mais qui restent quand même vraies. Une contradiction réel démasque un mensonge. C'est ça, les avocats et les policiers cherchent la contradiction. Parce que la contradiction, on l'a eu. Il mentait, et donc, c'était pas la vérité. Mais une opposition présente une situation qui est complexe. Une opposition n'est pas une contradiction. La vérité de l'unité de Dieu s'oppose à la vérité de la Trinité. Mais les deux vérités ne se contredisent pas. Dieu est un et Dieu est complexe. Il est un et il est, il y a un seul Dieu qui se définit pour nous comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qu'on donne le nom, le mot à cette idée-là, on donne le mot Trinité. Et parfois, je dis, bon, au lieu de dire Trinité, je dis Dieu est complexe, il n'est pas simple comme nous. Alors, une contradiction se manifeste quand deux propositions affirment et nient une même proposition. L'ordinateur est allumé, l'ordinateur est éteint. Alors, l'un ou l'autre est vrai, mais les deux ne peuvent pas être vrais. Donc, une contradiction rend évident une fausseté. Si je vous dis l'ordinateur est éteint et vous voyez que c'est allumé, vous dites, ah, oh, il a menti. Vous voyez? Une contradiction réelle n'existe ni en Dieu, ni dans la parole de Dieu. Okay? Un Dieu menteur ne sera pas digne de confiance. Notre Dieu est vrai. Il dit vrai, il dit toujours vrai, il ne se contredit jamais, il ne ment jamais, il est digne de confiance. Donc il n'est pas étonnant que dans 1 Jean 2, verset 21, nous lisons qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Dieu est la vérité, donc Dieu ne peut pas produire un mensonge. Et les chrétiens ne devront pas produire les mensonges. Plein de mouvements chrétiens qui produisent des mensonges. Ça ne devrait pas être. On doit être focalisé et bâti sur la parole de Dieu. Okay? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, la Bible dit aux chrétiens, renoncez aux mensonges. Ben pourquoi ils renonçaient aux mensonges? Parce que les chrétiens mentaient. Ce n'était pas bien. Donc il dit, renoncez, arrêtez de mentir, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ça doit être le marque ou un des marques d'un chrétien. Vérité. On dit quelque chose et on sait que c'est vrai parce que c'est un chrétien qui a dit cela. Et on a l'histoire de Ananias et de sa femme en Actes chapitre 5 qui montre combien Dieu est le mensonge. Heureusement, il ne fait pas comme ça avec nous. Il avait une seule fois dans la Bible, et on peut le lire, on n'a pas besoin d'expérimenter cette condamnation de Dieu. C'est donc rassurant de savoir que le Dieu créateur est vrai, qu'il dit vrai, qu'il ne mente jamais, et ne se contredit jamais. Il est digne de confiance, et sa parole est digne de confiance. Chaque personne qui croit ce que Dieu dit dans sa parole, certifie que Dieu est vrai. Donc, le deuxième point où ça soulève une question, la question, si le fait de croire, le fait d'avoir confiance, serait un acte méritoire. J'ai gagné le salut parce que j'ai cru en Jésus. Je mérite le salut parce que j'ai cru en Jésus. Okay? Donc la réponse est non, mais on va l'expliquer. La réponse est non. Le fait de croire est surtout la soumission. Est-ce un acte méritoire de vous arrêter au feu rouge? Vous arrêtez au feu rouge et on vous donne un bouton jaune. Oh, il a arrêté le feu rouge. Ou d'avancer sur le feu vert. Est-ce que c'est méritoire? Non. Ce sont des actes de soumission à la loi de la France. C'est comme ça. «
Est-ce méritoire de ne pas voler? Ça vous gagne quelque chose? De ne pas voler ou de ne pas mentir, de ne pas tuer? Est-ce que c'est méritoire? Non, ça doit être comme ça. C'est pas un mérite, c'est une soumission à la vérité de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 verset 2 dit que Dieu veut sauver tout le monde. Et acte 17, 30 dit que Dieu ordonne à tous de se repentir. Faute de quoi? Manque de confiance en Jésus. Avec chacun qui ne croit pas sera mis en enfer. Et Dieu ne veut pas ça. Il dit, je ne veux pas ça, je veux que tous viennent à la repentance. Il est intéressant qu'il y a plusieurs versets qui utilisent le vocabulaire. Obéir à l'évangile. Obéir à la foi. Obéir à Dieu. Dieu veut sauver toutes ses créatures humaines. Et le Fils de Dieu est mort pour les péchés de l'humanité entière. Le fait de croire est la réponse que Dieu attend de chaque personne. La réponse à l'œuvre que Dieu est en train de faire dans chaque personne. Hein, parce que la Bible dit bien que le Saint-Esprit est en train de convaincre le monde entier du péché, etc. Donc Dieu est actif pour persuader les gens de venir vers lui. Parce qu'il veut que tout le monde vienne à lui. Donc Dieu attend à ce que tous obéissent à l'annonce de l'Évangile. Donc la dernière fois, j'ai expliqué que Dieu a fait le nécessaire. D'ailleurs, il a préparé le nécessaire et le possible pour sauver l'humanité. Et puis il a mis en exécution quand Christ était sur la croix et quand il est ressuscité. Maintenant, comme j'ai dit, le Saint-Esprit, il fait son possible pour que les gens se convertissent. Et comme j'ai dit, Dieu attend à ce que tous répondent favorablement. Il y a plein de monde qui répondent négativement, mais Dieu attend à ce que tous répondent favorablement à l'évangile de son Fils. Et puis Dieu sauve tous ceux qui acceptent l'évangile. Mais Dieu n'oblige personne de croire en son Fils. Il le propose, il offre, il invite. Et bien, ça, chacun de décider s'il veut ou s'il ne veut pas. Croire à l'évangile est ce que Dieu attend de chaque personne. Croire, c'est accepter et soumettre à la vérité. Croire n'est pas un mérite. Tandis que ne pas croire entraîne condamnation. Ne pas croire, c'est la rébellion contre Dieu. Tandis que croire, c'est la soumission à Dieu. Donc, si quelqu'un veut poursuivre cette idée-là, j'ai plein de versets qui donnent cette idée-là. Okay? Alors, de là, on va dire que Dieu veut que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qu'ils grandissent dans la foi. Dieu dit, c'est la nouvelle naissance. Et il ne veut pas que tout le monde reste dans la crèche. Hein? C'est normal que les chrétiens grandissent, deviennent adultes, ils sont utiles, fonctionnels. Donc, on arrive à notre premier verset aujourd'hui qui est difficile. Verset difficile, vous pouvez chercher dans 1 Pierre chapitre 2. Et c'est le verset 2. 1 Pierre chapitre 2 et verset 2. Donc on a l'expression dans ce verset, croître pour le salut. Ok? Cette expression, croître pour le salut, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, se prête à la confusion. C'est là. Notre verset difficile, 1 Pierre 2, 2. Je vais lire verset 1 et 2. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous croissiez pour le salut. Donc, vous croissiez, donc c'est croître pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, donc il parle à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. OK? Donc, on a l'impression, et c'est à tort, OK? On a l'impression que ce verset enseignerait que le salut s'obtient petit à petit en lisant la Bible. Pas en croyant en Jésus-Christ, mais en lisant la Bible. La phrase dit « Par lui, vous croissiez pour le salut. » Ok? Donc, cette mauvaise compréhension vient en fait d'une mauvaise compréhension du mot « pour ». P-O-U-R. Donc, en français, le mot « pour », P-O-U-R, plus l'infinitif, ok? Plus l'infinitif, signifie un objet à atteindre, semblable à l'expression « afin de ». Donc, je suis venu au restaurant pour manger. Je suis venu au restaurant afin de manger. Okay? Donc, ceci n'est pas le cas dans ce verset. Il n'y a pas de verbe dans l'infinitif. Okay? Ce n'est pas « pour » plus « infinitif », c'est « pour » plus un nom. Okay? Donc, dans cette phrase, le mot « pour » signifie « par rapport au salut ». Vous croissiez par rapport au salut. Donc, ce mot « pour » en français traduit le mot grec « eis ». Donc, c'est une préposition dans les deux langues. Et le mot en grec, le mot « eis », est un mot qui est extrêmement nuancé. Donc, dans le dictionnaire en grec, il y a 3 pages pour ce petit mot à 3 lettres. Donc, pour dire que c'est vraiment dire beaucoup, mais ce n'est pas toujours correct de dire que ça veut dire ceci, que ça veut dire cela, etc. Dans ce verset, le mot grec « eis » veut dire « quant au salut ». En ce qui concerne le salut, par rapport au salut, qui correspond parfaitement au mot français « pour » quand c'est bien compris dans son contexte. Okay? C'est le même, on a les mêmes définitions dans le dictionnaire en France. Ici, on n'a pas un infinitif. On a « pour » plus un nom, et non pas « pour » plus un infinitif. Okay? Donc, ce verset dit que la parole de Dieu aide le croyant à devenir un meilleur chrétien. La parole de Dieu aide le chrétien à grandir dans sa foi, dans les choses qui concernent son salut. Ok, ça va tout le monde? Okay. La parole de Dieu enseigne le chrétien à rejeter le mal et à pratiquer le bien. Dans 3 Jean, versets 4 et 11, nous lisons « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et un peu plus loin, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Okay? » Donc, Jésus inclut ce principe dans sa prière dans Jean 7, 17, verset 17. Il a dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole et la vérité. » Donc, quand on a ce verset, je vais le répéter, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez en ce qui concerne le salut, ou quant à votre salut. » Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous êtes croyant, c'est par la parole de Dieu que vous allez grandir dans la foi. C'est ça que ça veut dire. Donc, Dieu aurait pu nous sauver, nous laisser partir comme on voulait, comme des bons brebis, perdus. Chacun sur son propre chemin. Mais non, Jésus a promis de donner sa parole comme une boisson pour désaltérer notre soif spirituelle. Et c'est ça que ce verset veut dire. Okay? C'est le Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu pour faire progresser le chrétien sur le chemin de Jésus. C'est pas très compliqué, mais souvent dans notre esprit, on ne comprend pas ce mot « pour ». Et dans beaucoup de versets, on a utilisé le mot « pour » dans la traduction en français, mais dans ce sens en ce qui concerne, et nous mécomprenons afin d'obtenir. Vous voyez, c'est ça pourquoi plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans le français et aussi dans l'anglais, on dit « Ah !» et ça nous choque, ça nous perturbe. Mais quand on comprend bien le mot « P-O-U-R » pour, dans le sens que c'est voulu utiliser, eh bien, c'est normal, c'est correct. Okay? Mais moi, j'aime bien, quand je fais une explication, je utilise la phrase « en ce qui concerne », pour qu'on le voit bien que ce mot « pour » veut dire « en ce qui concerne », etc. Donc, voilà, la parole de Dieu va nous faire progresser sur le chemin de Jésus. Et donc, on arrive au second verset difficile pour aujourd'hui, dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Donc, vous pouvez chercher Hébreux chapitre 12, verset 14. Donc, je peux lui donner le numéro de page. C'est la page Hébreux. On le trouve, il n'a pas dit ça. Hébreux chapitre 12, et c'est le verset 14. Donc, c'est la page 1214 dans les Bibles de Genève. 1214. Ah, c'était drôle parce que c'est chapitre 12, verset 14, c'est qu'il y avait 1214. C'est coïncident, mais c'est trop ça. OK, dans le verset, nous lisons, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ouh, là, ça fait... Si je ne suis pas parfait, je ne peux pas aller au ciel. C'est ça qu'on pense tout de suite. OK? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, donc sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, il faut déjà avoir le bon contexte. OK? Paul écrit cette épître à qui? C'est quoi le nom de cette épître? L'épître aux Hébreux. Aux Hébreux, il écrit aux Juifs. Et les Juifs, vous savez bien, dans les Actes des Apôtres, il y avait un grand mélange entre le judaïsme, qui persécutait le christianisme au début, et par la suite, il y a beaucoup de Juifs qui se convertissent à Jésus, mais qui veulent pratiquer la loi de Moïse. C'est une confusion totale. Et donc, ce petit livre, est écrit aux Juifs. Un côté pour les Juifs non-croyants, une autre partie pour les Juifs croyants. Okay? Ça, c'est, le livre est adressé à ces gens-là. Pour les Juifs non-croyants, okay, la lettre est écrite pour leur persuader de croire en Jésus-Christ. C'est un évangile. Croire en Jésus-Christ, lui est supérieur à tout ce que vous avez dans la pratique du judaïsme. Il est l'accomplissement de la loi. Et puis, il écrit aux Juifs chrétiens pour les persuader d'approfondir et de continuer leur marche avec le Seigneur. Ça, c'est le grand contexte de ce livre. Alors, pour le non-croyant, ceci est une déclaration nette qu'il faut chercher le Seigneur. Le Juif ou le Français qui ne croit pas en Jésus n'a pas le Seigneur. Donc, il faut qu'il cherche le Seigneur. OK? Les rites, les œuvres, tout ce qui se pratique dans la religion sur la planète, que ce soit juif ou païen, n'ont jamais et ne rendront jamais personne saint devant Dieu. On va peut-être se sentir mieux. Oh, j'ai fait 10 heures de prière, je me sens bien. Mais ça ne va pas nous faire monter au ciel. Okay? Sans croire en Jésus-Christ, qui est notre justice et notre paix avec Dieu, sans croire en Jésus-Christ, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus l'a dit dans Jean. Il a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il a dit par la suite, il faut naître de nouveau, il faut que vous naissiez de nouveau. Seul Jésus peut nous obtenir la paix et la sanctification. Et cela sans nos œuvres, sans nos rites religieux, sans la loi de Moïse, que les Juifs chérissaient tellement. Jésus est venu pour offrir aux Juifs, comme à nous aussi, bien sûr, la paix avec Dieu. Romains 5, chapitre 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Une fois, j'étais au marché dans une ville qui s'appelle Saint-Lévêché, et à cette époque, il me semble que la municipalité était communiste et la moitié de la ville appartenait à l'évêché. Donc, c'était une compétition. Et donc, on m'a donné 6 mois pour être sur le marché. Je ne sais pas si c'était par animosité ou par gentillesse, je ne sais rien. Mais il y a une dame qui passe devant moi, elle s'arrête, parce que j'avais un panneau là avec ce verset, elle dit, c'est ça que vous avez. Nous, les catholiques, nous n'avons pas la paix avec Dieu, et vous l'avez. Et puis elle est partie. Elle ne voulait pas avancer. Je veux dire, avec la foi. C'est dommage. Hein? Parce que Dieu donne la paix à travers Jésus-Christ. Sans passer par Jésus-Christ, il n'y a pas de paix avec Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas que Dieu, on voit tous les moines, tous les pasteurs ou quelque chose. Il faut croire, il faut avoir la confiance en Jésus qui est, lui, la vérité. Quant aux chrétiens, quand on lit ce verset, donc chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Quant aux chrétiens, notez que ce verset se trouve dans un chapitre, le chapitre 12, qui exhorte les chrétiens à continuer dans la foi en dépit des circonstances difficiles. Okay? On va lire quelques versets par la suite. Donc, le point, c'est que Dieu, il ne veut pas que les chrétiens découragés fassent des mauvais choix. Hein, quand on est découragé, parfois, on fait des choses qui ne sont pas tellement comme il fallait. Parfois, ces mauvais choix peuvent avoir des conséquences néfastes à long terme, même dévastateurs. Okay? Donc, on va lire dans le même chapitre, on va lire les versets 12 et 13, et puis le verset 17. Verset 12. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Vous voyez, ils sont découragés. Okay? Et suivez avec vos pieds des voies droites. Donc, ils risquaient de se détourner. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous. Okay? Donc, oh, ils commençaient à. Et puis, non, il ne faut pas aller par là. Revenir sur la vérité. Fortifiez-vous. Et puis, verset 17. Donc, c'est la fin de ce petit paragraphe. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction d'Esaü, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob et Esaü quand Isaac a donné la bénédiction à Jacob qui est parti chez son oncle. Et puis Esaü était tout en colère, il ne pouvait pas avoir la bénédiction. Et puis il dit, je vais tuer mon frère. Ok, cette histoire-là. Eh bien, quand vous lisez, parce que l'histoire ne focalise pas sur Esaü, ok, mais quand vous lisez l'histoire, eh bien, Dieu a continué quand même à bénir Esaü. Il est devenu riche, il avait plein de choses, il avait 400 hommes armés, sans parler du reste de ses servantes, serviteurs, esclaves et toutes les choses qu'il avait. Donc Dieu continue, mais ce qu'il a fait dans ce moment de découragement quand il avait faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté son droit d'aînesse. Et il ne pouvait pas la récupérer. Cette droit d'aînesse était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Que le Christ allait venir, qui allait bénir le monde entier. Et Esaü, en rejetant son droit aînesse dans un moment de fatigue et de découragement, eh bien, il a fermé cette porte et Dieu a donné cette bénédiction à une autre personne. Okay? Bon, c'est ça. Il ne faut pas penser que Esaü a perdu son âme. Ce n'est pas du tout ce qui est en vue ici. C'est qu'il a perdu la bénédiction. Alors, parfois, c'est vrai que pour diverses raisons, des croyants se lassent de vivre la vie chrétienne. C'est ça le point ici. Que on est entouré que de je sais pas, que de orthodoxe, que de catholique, que de mormon. Et je suis fatigué. Peut-être on est entouré de musulmans. Je suis fatigué. Je vais plus afficher que je suis chrétien et je vais soumettre aux pratiques autour de moi. Comme ça, tout le monde me laisse tranquille. C'est ça, ici. OK? Et donc, quand moi je dis se délasse de vivre la vie chrétienne, je veux dire, par la vie chrétienne, je veux dire de se séparer du mal et de pratiquer le bien. OK? C'est pas qu'on doit mettre une pilule, je suis chrétien, ne tapez ici. C'est pas le point. OK? Mais on doit vivre dans la vérité, on doit vivre dans le bien et on n'a aucun intérêt à pratiquer le mal. OK? Il faut maintenir un témoignage chrétien. Et parfois, il faut parler de ce que nous croyons. Quand un chrétien vit, il a une vie comme le monde, donc le paragraphe dit qu'il risque fortement à regretter cette vie par la suite. Hein, parce que beaucoup de fois, on ne peut pas rattraper ce qu'on a fait. On peut souvent, mais souvent, non aussi. Galates chapitre 5 décrit parmi d'autres choses le conflit et la violence liés à ces mauvais choix de vivre comme le monde. En revanche, Dieu désire que les chrétiens soient ambassadeurs de la paix. Le verset dit « Recherchez la paix ». Romains chapitre 12 verset 18 dit « S'il est possible, on ne sait pas toujours possible, mais s'il est possible, autant que cela dépend de vous, le chrétien, il dit « Soyez en paix avec tous les hommes. » C'est à nous d'agir. Hein? Jésus est notre paix et il nous a donné sa paix. Pas la paix du monde, mais la paix que Dieu donne. Pour le croyant, cette exhortation à rechercher la paix et la sanctification tombe sous le principe cause et effet. Okay? Puisque Dieu est saint et il nous a sauvés, eh bien Dieu désire voir en nous les effets de sa sainteté. Il nous a dit, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est ça que Dieu attend de nous. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, on a cette idée, quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire l'espérance d'aller pour l'éternité auprès de Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix et sa résurrection, ça c'est notre grande espérance. Alors celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Jésus n'a jamais péché. Donc nous, on veut limiter notre quantité de péché. Seul le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Le moment que l'on croit à l'Évangile, Dieu déclare que le croyant est saint en Christ. Il est sanctifié en Christ. Au moment de la mort, Dieu rend la personne absolument saint pour qu'il puisse être dans la présence de Dieu. Le non-croyant ou les non-croyants sont exhortés, les juifs ici, dans le texte, les non-croyants sont exhortés à rechercher la sanctification par le sang de Christ. Pas par les rites et les rituels et les bâtiments et tout ça. Les croyants sont exhortés à mettre en valeur leur relation avec Dieu et donc de mettre en œuvre leur sanctification. Dieu nous a déclaré saints, donc vivez sur le chemin de Jésus, marchez de jour en jour avec le Seigneur. Et on a ce verset dans Galates 5, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Okay? Donc, si on veut vivre comme chrétien, il faut marcher avec l'esprit. Et comment marcher avec l'esprit sans lire la parole de Dieu? Okay? Et puis, dans le Matthieu, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses, c'est la même idée. Si on veut être un chrétien, je veux dire vivre comme chrétien, eh bien, il faut connaître la parole de Dieu. Et même si on est découragé, il ne faut pas se laisser dévier, il faut nous ressourcer dans la parole de Dieu. Donc, je vais résumer toutes ces choses-là. Donc, la vérité est capitale dans le christianisme. croire à la vérité signifie soumettre à la vérité. Et de sa part, donc Dieu, par Christ, sanctifie le croyant. Ici-bas, le croyant né de nouveau progresse, apprend, grandit. C'est pas fini le moment de croire, ça c'est le début de la vie chrétienne. Tout en recherchant une vie pure, c'est-à-dire une vie chrétienne normale, le croyant abstient des rites et des pratiques religieuses humaines et il se sépare des pratiques du mal. Il avance de jour en jour avec le Seigneur. Donc, j'espère que ça aide déjà à comprendre ces deux versets, mais aussi que ça vous encourage, surtout si vous êtes croyants, mais que ça vous encourage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, au cas où vous n'avez pas sous, on a un repas suite à la réunion, repas en commun, certainement suffisamment pour nous tous. Donc, restez si vous pouvez, et si vous ne pouvez pas, donc, passez une bonne semaine et on va pleurer votre absence. Donc, saluez-vous les uns les autres, vraiment.